Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Salut les amis.
Salut Charlie.
Alors attendez, parce que je crois que c'est aujourd'hui.
Quoi?
C'est aujourd'hui qu'on change le monde.
Ah mince, ouais. Mais moi j'avais un déjeuner ce midi.
Ouais, moi je suis pas trop dispo non plus en ce moment.
Ah ouais, attendez, c'est pas grave, hein, c'est pas directement sur vous que je comptais.
Ah,
hein,
ah ouais, c'est mieux, je suis sûr. Oui, c'est voilà. Mieux, c'est mieux.
Alors, on reçoit une super économiste. Oh, ouais. Regardez un peu ce livre, Le prix de la démocratie.
Julia Cage.
Ah, ça doit être la sœur de Nicolas Cage.
Oh, Julia Cagé.
Oh, ah d'accord, bah en tout cas, je sais pas, moi je dirais que ça coûte cher la démocratie.
Pas autant que la révolution, mon petit potage taxi des gens.
Attendez, ouais, sérieux là-haut, et ouais. Julia Cagé, elle révolutionne la façon de penser la politique.
Déjà, elle pense la politique, et c'est déjà pas mal.
Ouais, ouais. En fait, c'est un petit peu la gauche amont.
Ah, bah c'est une auditrice de France Inter.
Ouais, elle a travaillé sur le revenu universel.
Ouais, ça, les Français, ils s'en foutent, tu leur proposes un salaire, et paf, l'autre, il fait 6%.
Oui. Alors, après, il y a des bons pour l'égalité démocratique, limitation des dons privés, et une assemblée mixte.
Ouais, bah hashtag gilet jaune, quoi.
Oh non, elle dit les partis sont essentiellement financés par les riches.
Bourgeois.
Qui, du coup, influencent les décisions politiques. Il n'y a aucune représentativité dans ce pays.
Ni dans cette équipe.
Pardon.
Ah bah hashtag par Jupiter gilet jaune.
Et bien sûr.
Non mais oui. Attendez, je trouve qu'on est assez démocratique dans cette équipe quand même.
C'est-à-dire que c'est essentiellement toi
qui prend les décisions
sur tous les sujets.
Bah voilà, bah ouais, bah c'est ça.
Quoi?
Bah, une démocratie basée sur les compétences. C'est un beau système démocratique. Bonjour la France Inter et bonjour à tous nos auditeurs strasbourgeois qu'on va tenter de distraire un peu aujourd'hui. Vous écoutez la Startup émission, cette émission où la blague reste focus sur le process de l'actualité. Les dons qui permettent de financer chaque parti dressent un portrait géographique et social de ses électeurs. La commission des comptes de campagne ayant enfin achevé l'examen des plus gros dons reçus par En Marche, on observe que Paris et Londres ont essentiellement permis à Emmanuel Macron de mener campagne. Alors, qui est derrière l'élection alors? Comment le citoyen est-il représenté au Parlement lundi soir, au moment où le président annonçait des mesures pour le pouvoir d'achat, le Sénat votait l'allègement de la taxe pour les exilés qui détiennent des actions à l'étranger?
Je suis entièrement de votre avis, je trouve ça répugnant, c'est ignoble. Mais partant du principe que dans la vie, il y a des gens malhonnêtes, le seul moyen efficace de s'en défendre, c'est d'en profiter.
Les médias se regroupent entre eux parce qu'ils appartiennent à un même patron. Par exemple, Libération, BFM et les salariés de SFR sont rassemblés dans un même immeuble, d'un même groupe. C'est aussi ça le prix actuel que coûte la démocratie et quitter le centre historique de Paris.
Ah non, moi je vais pas en banlieue, mais là c'est sûr.
Lui, il regroupe toutes ses activités au bureau.
Exactement.
La preuve, ce tas de chemises, de déguisements et d'accessoires planqués dessous son bureau. C'est Alex Vizorek.
Je ne peux pas vous dire le contraire. Autour de la table, une belle équipe malgré tout cela. À 17h20, celui qu'on présente comme le champion de l'humour absurde, alors que le plus absurde, c'est qu'il fasse de l'humour, c'est Thomas VDB, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour à tous. Alors moi, exceptionnellement, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas faire de chronique.
Ah,
et
bon.
Voilà, c'est tout à fait exceptionnel, je vais faire une allocution.
Oula.
Je croyais qu'il allait nous faire une bec BD.
À 17h30, celui qui est allé en reportage avec le stagiaire ce matin.
C'est
autant dire qu'on a très peur que le petit croit que le journalisme, c'est du Guillaume Meurice.
Eh ben, je l'ai emmené à la Bourse de Paris parce que je suis allé faire un petit reportage sur la finance, un milieu qui n'a pas la cote. Je suis allé voir des businessmen parce que tout le monde fait rien que les embêter.
On nous dit rarement qu'on est chouette.
Oh, ouais. Les millions. On va leur dire qu'ils sont chouettes. On leur fait des câlins.
Compte un peu sur vous. À 17h40, celle qui lit des livres cul-sec en buvant des verres au fil des pages. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
D'un livre magnifique qui vient de l'autre Belgique.
Les Flamands?
La vraie Belgique.
Et voici celle qui va procéder à un audit dans notre open space. Vous êtes... Julia Cage.
Est-ce que je l'ai pas dit?
Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek,
par Jupiter.
Welcome in this open space. Vous êtes la grande économiste américaine, Julia Cage. Merci Julia Cagé d'être en notre compagnie. Vous publiez chez Fayard le prix de la démocratie. Alors le prix de la démocratie, bien sûr, aujourd'hui cette phrase prend un sens particulier. Hein, on replonge dans la thématique sécuritaire qui est aussi le prix de la démocratie. Mais c'est d'économie dont il s'agit aujourd'hui avec vous. Votre livre, il est le fruit d'une longue étude sur le financement des partis politiques dans 10 pays sur une période de 50 ans, ce qui nous rend tout ouïe sur vos conclusions. Alors, l'ensemble des citoyens, nous tous, vous dites, nous finançons les préférences politiques des plus riches. Alors, comment est-ce possible? Est-ce que l'injustice sociale, elle commence avec ça, le financement des partis politiques en France?
Oui, elle commence avec ça, et en fait, ça se retrouve aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes, où on a tout un ensemble de citoyens qui se sentent plus du tout représentés. Ben, non seulement ils sont pas représentés parce qu'on a un gouvernement qui mène une politique en faveur des plus riches, mais ce qui est assez ironique, c'est que ces citoyens-là, en amont, ont payé, finalement, pour financer ces préférences politiques
mais
des plus riches. Comment ça se fait? Ben, si vous êtes riche en France aujourd'hui, et que vous donnez 7 500 € à un parti politique, vous ne payez en fait que 2 500 €. Mmh. Et les 5 000 € restants sont à la charge de l'ensemble des Français puisque vous bénéficiez d'une réduction d'impôts. Maintenant, si vous êtes au salaire minimum aujourd'hui en France, alors déjà pour commencer, vous n'allez certainement pas donner 7 500 € à un parti politique parce que ça serait la moitié de votre salaire annuel.
Ah oui.
Donc imaginons que vous fassiez un effort, vous donnez 300 €. Et ben dans ce cas-là, vous payez 300 €. Parce que tant pis pour vous, vous avez beau payer énormément d'impôts. Comme il se trouve que vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne bénéficiez pas des réductions d'impôts. Et du coup, on a mis en place un système aujourd'hui en France où on dépense chaque année plus de 60 millions d'euros en cadeaux fiscaux pour les dons des seuls plus favorisés aux partis politiques de leur choix.
Eh oui, qui sont souvent plutôt libéraux-conservateurs, ça?
Qui sont souvent plutôt libéraux-conservateurs en marche.
Ouais. Dans le film. On va en parler justement.
Depuis le décès de Pierre Berger.
Oui, oui, sans doute que lui pesait beaucoup, non?
Bah, il pesait à hauteur de 7 500 € sans doute dans le financement, oui, du parti,
par
du
an.
Parti socialiste.
Alors, il peut donner
heureusement qu'on a quand même quelques personnes qui ont un peu d'argent qui donnent aux partis plus à gauche économiquement, mais quand même en moyenne, on voit que ce sont principalement, d'ailleurs dans tous les pays, les partis de droite qui en bénéficient davantage.
C'est ce que vous expliquez. Normalement, ça doit être une personne, une voix. Et ici, on est plutôt dans un système un euro, une voix.
Ouais, bah en fait, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une certaine manière de plutocratie, parce que non seulement ça a un effet parce qu'on finance en plus ces préférences des plus favorisés, mais l'effet le plus important, c'est que en fait, du coup, on a des hommes politiques qui partent à la chasse aux chèques. Ils partent à la chasse aux dons, donc ça veut dire quoi? Ils vont faire campagne auprès des plus favorisés. Ils vont faire campagne à Londres, ils vont faire campagne dans les salons parisiens, ils vont faire campagne à New York pour récolter des chèques pour financer leur campagne électorale. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les riches ont voix au chapitre et les pauvres n'ont plus voix au chapitre. Et se font doublement pénaliser parce que cet argent qui est récolté par les partis politiques, ensuite il sert pendant les campagnes électorales. Et ce qu'on trouve, c'est qu'en moyenne, plus on dépense pendant une campagne électorale, plus on a de chance de l'emporter au final. Donc finalement, les plus pauvres sont double fois pénalisés et les plus riches ont davantage de voix dans notre plutocratie que les moins favorisés.
Mais donc, si le système fait que la gauche, elle aussi, elle doit courir après des financements privés pour faire une grosse campagne, parce qu'une grosse campagne avec de l'argent, ça permet de gagner de l'avance, c'est là qu'est la rupture avec l'électorat populaire, c'est comme ça que ça commence le...
Oui, moi je pense que c'est fondamentalement ce qui permet d'expliquer aujourd'hui l'explosion des populismes et le fait que de plus en plus ces catégories populaires se tournent vers des partis notamment d'extrême droite, parce qu'on a eu une dérive à droite sur les questions économiques des partis traditionnellement de gauche. De ce point de vue-là, il suffit de regarder le cas d'Hillary Clinton aux États-Unis. Je veux dire, le parti démocrate américain sur les questions économiques ne représente plus les classes populaires. Et si on regardait le programme économique d'Hillary Clinton par rapport au programme économique de Trump, il n'y avait pas beaucoup de différence. Et d'ailleurs, Hillary Clinton, on lui a suffisamment reproché ses discours auprès des grandes banques qui étaient des discours rémunérés dont elle a refusé de publier le contenu. C'est pas propre aux États-Unis. Si on regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni, Tony Blair, qui était censé être le représentant du Parti travailliste, c'est lui qui a libéralisé, flexibilisé énormément au Royaume-Uni. Pareil pour Matteo Renzi en Italie, et on a vu ce qui s'est passé ensuite. Et donc en fait, le fait que finalement la gauche, parce que en partie elle va lever de l'argent privé auprès des plus favorisés et abandonner les classes populaires d'un point de vue économique, aujourd'hui, ça a des conséquences très graves et ça explique en partie, un, l'explosion des populismes et deux, la montée de l'extrême droite un peu partout en Europe.
Quand vous dites ça aux politiques, ils vous répondent quoi ?
Bah, écoutez, pour l'instant, ils m'ont pas beaucoup répondu parce qu'ils sont plutôt dans des querelles et des bisbis pour savoir qui sera le premier parmi les nains pour aller se présenter aux prochaines élections européennes. Mais le jour où on pourra vraiment parler du fond, j'aimerais bien en discuter avec eux. Pour être tout à fait honnête, il y a un problème qui est un problème de système. C'est qu'on permet ça et que finalement, on a laissé se corrompre le jeu politique. Moi, ce que je propose dans le livre en particulier...
Parce qu'il y a des solutions, vous avancez.
C'est de commencer par baisser le plafond des dons. Aujourd'hui, on dit 7 500 €. Moi, il y a plein de gens qui m'ont on dit, des commentateurs, vous dites 7 500 euros, bon, il n'y a pas vraiment de problème d'argent privé en France, parce que tout le monde peut contribuer 7 500 euros. ce qui est relativement étonnant, mais en même temps, si on dépense 200 euros pour chaque déjeuner au restaurant, pourquoi pas. Donc déjà, il faudrait baisser fortement le plafond des dons. Donc si on avait un plafond à 200 euros, personne ne peut donner plus de 200 euros. Déjà, on mettrait moins le poids sur un certain nombre de citoyens par rapport à la majorité des citoyens.
Puis Philippe Poutou, il pourrait avoir un peu d'argent aussi, par exemple.
Et Philippe Poutou pourrait avoir un peu d'argent. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup d'argent public pour qu'il n'y ait pas d'argent privé.
Et comment
privé.
Via la feuille d'impôt, vous proposez quelque chose?
Oui, je propose les bons pour l'égalité démocratique. Donc c'est quoi les bons pour l'égalité démocratique? C'est qu'on prend toutes les sommes qui sont consacrées aujourd'hui au financement de la démocratie, notamment les réductions fiscales. Donc on met fin à ces réductions d'impôts qui ne bénéficient qu'aux plus favorisés et on alloue le même montant à chaque citoyen indépendamment de ses revenus. Donc les bons pour l'égalité démocratique, c'est 7 euros pour chaque citoyen. Qu'est-ce que vous faites? Vous déclarez vos revenus. Et une fois que vous avez déclaré vos revenus, vous avez une seconde étape où vous indiquez au gouvernement, à l'État, le mouvement politique de votre choix auquel vous souhaitez voir allouer vos 7 euros
vous cochez,
d'argent public. Ça a deux avantages par rapport au système actuel. Un, c'est égalitaire. Donc c'est le même euro pour tous les Français. Et là, ça revient un peu vers ce qui devrait être la définition de la démocratie. Une personne égale une voix. Et deuxièmement, c'est dynamique. Parce qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le système de financement public de la démocratie en France est figé par intervalle de 5 ans. Puisque ce que vous touchez comme financement public, ça dépend de vos résultats aux dernières élections législatives. Ça veut dire quoi concrètement? Que plus ou moins pour pouvoir participer aux prochaines élections, il faut mieux avoir gagné les précédentes, sauf si vous êtes en marche et que vous êtes capable de lever suffisamment d'argent privé. Mais si vous êtes les Gilets jaunes, par exemple, et que vous voulez créer un parti politique, vous n'aurez aucun financement public dans le système actuel en France avant 2022. Donc vous avez le temps de mourir 3 fois. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Nuit Debout. Donc en fait, il faut dynamiser ce système, et ça, les bons pour l'égalité démocratique le permettent, puisque ça annualise le financement public de la démocratie.
Voilà, c'est le constat et les solutions avancées par Julia Cagé dans Le Prix de la démocratie, paru chez Fayard. Et bon, avec tout ça, bon, il a fait 6%, alors on comprend pas, parce que on trouve vos idées sont bonnes, et puis bon, ben voilà, je sais pas.
De qui vous parlez?
Faudrait voir le ratio 6%, combien d'euros, voilà.
Puisqu'on parle de cash. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I walk the line, Johnny Cash. Parce qu'on a une économiste. Et ça, c'est Djoubaka, la programmation musicale. Facétieux, bien sûr.
Facétieux, brillant. C'est Julia Cagé qui nous accompagne aujourd'hui, qui publie Le Prix de la démocratie, qui est le sujet un peu de cette émission d'ailleurs. Et pour entourer Julia Cage.
Eh ben, les meilleurs, Thomas BDB, Guillaume Meurice et Juliette Arnaud.
Et l'information, allez.
Française, français. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir.
Le journal de presque 17h17.
Nous sommes à un moment historique.
C'est moi ou il y a une ambiance de merde?
On commence par les titres.
Oui, et par l'attaque terroriste à Strasbourg hier soir.
Eh oui, quel beau mois de décembre pour BFM TV.
Apparemment, des personnes sur place auraient entendu l'assaillant crier « Allah Akbar ».
Eh oui, on aurait été clairement étonnés si on l'avait entendu crier « Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur ».
Est-ce qu'il y aura des brèves?
Oui, parce que c'est dans ce genre de moment qu'on se rend compte que la vie est brève.
Salut. Il récupère même le terrorisme, pour placer ses brèves.
Alors évidemment, c'est toujours très difficile justement d'essayer de faire rire après un tel événement.
Oui, ça je vous le fais pas dire. Ouais.
Alors je vais tenter quand même.
Allez-y.
François Bayrou.
Ah ouais.
C'est pas grand-chose, mais moi rien que de penser à lui, ça me fait un petit peu rire.
Merci à lui, il nous fait du bien.
On le sait.
Alors, ouais, mais enfin, on va quand même parler des suites de cet attentat à Strasbourg, car Marine Le Pen a déclaré vouloir expulser les fichiers S étrangers.
Et oui, c'est la période de Noël, c'est le moment des best-of, et Marine nous ressort son plus gros tube.
Laurent Wauquiez a lui immédiatement critiqué la politique antiterroriste du gouvernement.
Et Wauquiez et Le Pen, ils font penser à Apple et Samsung. Ils disent qu'ils sont concurrents, mais au final, ils sortent les mêmes trucs en même temps.
De son côté, Anne Hidalgo adresse son soutien aux habitants.
Et ouais, surtout, elle est bien placée pour savoir ce que ça fait de s'attaquer au marché de Noël.
Quant au tireur, on sait qu'il s'est enfui à bord d'un taxi.
Ah voilà, ça c'est bien pour les complotistes parce que Macron, il l'aurait fait partir en Uber. Si c'était
ouais, c'est sûr, hein. C'est bien la preuve. C'est vrai que depuis l'attaque de Strasbourg, les théories complotistes fleurissent. Pour certains, ce drame interviendrait à point nommé pour Macron.
Comme par hasard, alors, bientôt vous nous expliquez que le Bataclan, c'est un coup de Hollande pour faire oublier le scooter et les croissants. Non.
Côté médias maintenant.
Oui, les chaînes info étaient au taquet, évidemment, on l'a dit, notamment LCI, où Pascal Delatour-Dupin essaye de garder ses téléspectateurs. On est donc sur LCI.
Il est quasiment 8h, édition spéciale sur BFM TV, le tireur de Strasbourg est toujours en fuite.
Y a pas de bol, voilà. Et en gros, elle change tellement de camp qu'elle s'en mêle un peu les pinceaux. On appelle ça une aurore berger.
C'est vrai. Média toujours, le journal régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace n'a pas pu être imprimé à cause des mesures de sécurité.
Et oui, donc demain, le journal devrait ressortir et peut-être s'appeler Les Avant-Dernières Nouvelles d'Alsace.
International, oui. En Espagne, les corridas sont en baisse de fréquentation.
Oui, depuis les vidéos de L214 sur le net, évidemment, les fans de torture animale n'ont plus besoin de sortir de chez eux pour kiffer.
L'économie, Total a annoncé que ses employés allaient toucher une prime exceptionnelle.
Ah, ça c'est bien. Total s'applique à lui-même le principe du pollueur-payeur et c'est pas mal.
Une prime de 1 500 €.
Ouais, c'est pas la folie non plus, ça fait deux pleins.
Alors,
Bien sûr. Google a dévoilé son bilan annuel des recherches les plus nombreuses des internautes cette année, avec en tête la Coupe du Monde et les stars décédées. Donc j'imagine que celui qui a eu le plus de recherches, c'est Olivier Giroud, qui a participé à la Coupe du Monde durant laquelle il est resté au point mort.
Et la dernière.
Vous devriez pas avoir le droit de parler de football. Vous êtes belge.
Et la dernière, justement, c'est arrivé chez nous. C'est d'ailleurs des Français, ils volent une friterie. Et en Belgique, et la rapporte en France. Si vous voulez la recette pour faire des bonnes frites, demandez-la nous, volez pas les friteries.
Merci Alex, 17h25.
Alex, c'est une espèce de camionnette et ils ont essayé de.
Ils ont volé la friterie.
Oui, ils ont volé toute la friterie.
Je voulais la friteuse. Moi.
Non, c'est vraiment.
Moi, je voyais un restaurant grave, complet et je comprenais pas non plus comment on pouvait voler un restaurant.
C'est essentiellement dans des.
Voilà.
Des caravanes, vous voyez.
C'est bon. Camion à frites.
Camion en frites. Heureusement, Julia Cagé met un terme à ce débat. C'est vrai. Julia Cagé, le prix de la démocratie avec vous. Eh bien, nous avons trouvé des sujets, trois sujets qui traitent de tout cela, bien sûr. Alors, qui a financé la campagne d'Emmanuel Macron? Question intéressante, puisque c'est un tout nouveau parti et que donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, les financements publics, ils arrivent quand on a été élu. Donc comment fait-on? Et justement, la commission des comptes de campagne a enfin fini d'analyser les 74 000 dons reçus par En Marche pendant la campagne. Alors, il y a la finance londonienne, c'est le JDD qui le dit, donc c'est vous dire. La finance londonienne, la City, a donné plus d'argent que les 9 plus grandes villes de province françaises réunies. Les dons à En Marche, c'est essentiellement Paris, Londres, et tout ça loin derrière aussi, il y a les grandes villes. C'est très 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 urbain.
On passe à la proposition de loi du député socio-gauche.
Merci Monsieur le Président. Notre proposition de loi vise à régulariser les comptes de campagne pour que les hommes, comme ceux de l'UMD, arrêtent de jouer avec l'argent des Français. En arrêtant de se payer des prostituées. Ou alors qu'ils invitent les copains.
C'est le palmachot. Alors donc, c'est donc le dimanche 2 décembre que le JDD a publié une cartographie des dons à En Marche pour qu'on comprenne comment le parti s'est financé. Alors il y a beaucoup Londres qui a rassemblé 800 000 euros, il y a New York bien sûr, et il y a Beyrouth, il y a 18 dons qui viennent du Liban pour 105 000 euros. C'est plus que les sommes versées par les Toulousains et les Rennais réunis. Alors on a expliqué tout à l'heure que pour les Français les plus riches qui donnaient de l'argent à des partis, il y avait une déduction fiscale qui était financée par nous, par les concitoyens. Les dons qui viennent de l'étranger, Julia Cagé, alors ça nous arrange alors? Il y a pas de défiscalisation? C'est pas nous qui payons? Finalement que la City donne du blé, New York, Beyrouth, nous ça... On est content là alors?
Oui, au moins c'est pas nous qui payons directement, mais en même temps je veux pas faire une annonce sur votre prochaine actualité, à l'arrivée quand ensuite les sénateurs macronistes votent l'exit tax, peut se dire qu'on paie très indirectement.
Ça vient de là. On va y revenir tout à l'heure, ce sera le deuxième sujet. Alors on dit c'est un nouveau parti, donc il pouvait pas toucher d'argent public au départ. Mais Emmanuel Macron dit chez moi on ne vit pas du contribuable quand il a lancé son parti. Vous nous avez expliqué en début d'émission que il y a une déduction fiscale, etc. Mais aussi un nouveau parti, il est quand même obligé de faire des efforts plus que d'efforts que les autres pour aller chercher des fonds privés. J'essaye de me faire un peu l'avocat de Macron, c'est compris.
Oui, mais non, mais attendez, il y a d'autres candidats dans d'autres pays qui ont fait campagne différemment pour aller chercher des dons privés. Par exemple, Bernie Sanders aux États-Unis, quand lui est allé chercher des dons privés, il a dit je refuserai tous les dons au-dessus de $200. Et Bernie Sanders a levé quasiment autant d'argent qu'Hillary Clinton aux États-Unis qu'avec des petits dons en dessous de $200, puisqu'il est allé parler à l'ensemble des Américains et qu'il avait des mesures politiques pour l'ensemble des Américains. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas qu'il ait eu de l'argent privé. C'est vrai que de toute façon, il n'avait pas le droit au financement public. C'est la nature de ses dons, et ses dons, ce sont quasiment que des dons en plafond. Donc que des dons à hauteur de 7 500 euros.
Les gros
d'ailleurs
dons.
On regarde, il y avait dans les Macron Leaks, dans les échanges de mails, on voit les plans de table. Donc il y a les plans de table, dîner à Londres, ah ce dîner là ça va être 200 000 euros, tel dîner ça va être 250 000 euros. Donc il a organisé ses soirées en fonction de la valeur de la table, la chaise à table étant de 7 500 euros. Donc là 200 euros c'est même pas le prix du café. Et à l'arrivée c'est comme ça qu'il s'est financé. Et le problème c'est que ça a des vraies conséquences. Parce que quand vous faites tous vos dîners de levée de fonds auprès des banquiers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit écoutez Monsieur Macron, il y a une urgence en France, je vous assure, c'est de supprimer l'impôt sur la fortune. Oh, et une fois élu président, vous faites quoi? Bah, écoutez, vous allez direct à l'urgence,
vous êtes un peu
vous supprimez l'impôt sur la fortune et dans l'intervalle, vous avez oublié que quand même 5 euros sur les APL, c'est pas cool pour la plupart des Français.
Et pour terminer sur ce sujet, cette cartographie finalement des dons, elle nous montre que c'est très 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 urbain. Et donc on comprend aujourd'hui la crise, elle est tout à fait mécanique et logique, c'est-à-dire que si c'est les grandes grandes villes de province, là on voit les principales villes, c'est Lyon, Nice, Lille, Nantes, plus les Français exilés, elle est là la grosse fracture de départ en fait.
Oui, c'est très urbain, puis c'est quand même une fracture de classe, hein, parce qu'à l'arrivée en région parisienne, pour la région parisienne, il n'y a pas que des Parisiens qui vivent autour de la place de
l'Étoile. Paris est proche banlieue, c'est 7,4 millions d'euros.
Donc à l'arrivée, c'est quand même une fracture qui est une fracture en termes de plus riches versus les plus pauvres. C'est pas, encore une fois, c'est pas quelque chose qui a été propre à Macron, c'est quelque chose qui a été exacerbé par Macron. Si vous regardez en France aujourd'hui, en moyenne, il y a moins de 1% des Français qui donnent chaque année à un parti politique. Parmi les 0,01% des Français les plus riches, il y en a 10%. Donc c'est déjà un phénomène qui existait avant Macron. Ce sont majoritairement les plus riches qui contribuent à la vie politique. Et là, Macron, il l'a exacerbé, il l'a poussé à sa limite. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça a de vraies conséquences. Parce qu'en fait, quand il y a ensuite des demandes de la part des plus modestes, il n'arrive pas à y répondre. Et il manque profondément d'empathie, il manque de connaissance de la réalité des Français. Le problème, c'est que derrière, il a une Assemblée nationale à son image qui n'est pas représentative. Il a un gouvernement à son image qui n'est pas représentatif, et ça crée une vraie déconnexion avec la réalité des Français.
Donc on le dit aux gilets jaunes qui nous écoutent, donnez de l'argent à Emmanuel Macron, comme ça, voilà, hein, il va vous conseiller. C'est les petits trucs qu'on
a. En tout cas, il est déjà 17h31 à Sapé, en Chartreuse, dans l'Isère. 1000 habitants, dont 4 ont donné 7 500 euros. C'est une station de ski huppée où la bourgeoisie grenoblable... Ah, c'est le JDD qui le dit, c'est le JDD. Et ça s'appelle Sapé en Chartreuse, et Sapé bien, visiblement.
Ça fait comme jamais.
Alors, c'est à moi. Eh bien, j'y vais du coup.
Ouais, ouais.
Parce que moi, ça fait 4 semaines que les Gilets jaunes ont commencé leur lutte. Et donc, je n'ai décidé de traiter le sujet que 7 semaines dans ma chronique. J'en n'en ai pas parlé avant. Je trouvais que c'était bien, en hommage à Emmanuel Macron, de faire une chronique qui s'inspire de son temps de réaction pour régler un problème. Et j'attendais vraiment que la quasi-totalité de la France ait donné son avis un peu pour en parler. Voilà. Donc si ça vous dérange pas, comme j'ai dit aujourd'hui, j'aime pas dire qu'on fait que j'ai fait une chronique, mais plutôt que j'ai fait une allocution. Voilà, donc je vais commencer l'allocution. Mes chers compatriotes. Alors quand j'étais petit, moi, ma mère, elle m'achetait des mini-nuts. Donc ça, c'est l'allocation qui a commencé. Et donc, faut savoir que quand il y avait un paquet de mini-nuts à la maison, nous, on le mangeait en famille, tous devant la télé, on partageait tout le paquet, quoi. Hein, voilà. Alors vous allez bientôt comprendre où je vais en venir exactement. Et un jour, je reviens de l'école, moi et ma sœur, elle était restée seule avec ma mère ce jour-là. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ma petite sœur en train de se manger toute seule un gros mini-nuts. Ok. Donc je vais voir ma mère, je dis, excuse-moi, mais Marion, ma sœur, elle a eu un mini-nuts, je veux un mini-nuts moi aussi. Et là, sauf qu'on allait passer à la table et tout ça, donc ma mère, elle dit, non, mais allez, y a plus de nuts. Et moi, je dis, quoi? Y a plus de mini-nuts? Et je me dis, ils sont bouffés tous les mini-nuts sans moi. Et là, je dis à ma mère, je dis, donne-moi un mini-nuts. Et elle me dit, mais non, y a plus de mini-nuts. Mais là, je sentais bien qu'elle les avait cachés, que c'était quelque part. Et donc là, je sais pas si je dois en être fier ou si je dois pas avoir honte, mais bon, impression d'injustice totale, je me mets à hurler, et là, je commence à faire des grosses dégradations partout dans la maison, quoi. Mais là, vraiment, je désingue tout dans la baraque, je renverse la casserole de ratatouille, les rhododendrons, tout niqué à ma mère, je soulève la R25 de mon père dans la cour, je dis à ma mère, alors ils sont où les ménénutes? Elle me dit, mais y a plus de nuts! Et là, je continue à tout retourner dans la maison, et à bout d'un moment, ma mère, elle vient me voir, elle me dit, bon, ben allez, leve-la, ton ménénut! Je dis, mais il en restait, en fait! Et ma mère, elle me dit, mais ouais, il en restait. Mais je dis, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Je dis, quand je te l'ai demandé poliment, tu pouvais me le donner avant, en fait. J'aurais pas tout désingué dans la maison. Alors, attention maintenant. Alors, fin de l'allocution. Loin de moi l'idée de comparer les souffrances des gilets jaunes avec l'idée d'un manque de mini-nuts. Mais je pense qu'avec un petit effort d'imagination, on peut voir facilement un rapport entre ce que j'ai ressenti quand ma mère m'a donné le mini-nuts un peu trop tard et ce qu'ont ressenti les gilets jaunes quand Macron, il leur a dit, bon, on veut bien finalement vous donner 100 euros par mois du SMIC en plus. On était tous devant la télé. Mais pourquoi il a pas dit avant, lui? Pourquoi il l'a pas fait avant? Voilà. C'est vrai qu'on en est quand même à l'acte 5. Du mouvement des gilets jaunes. Je sais pas si vous imaginez quand même la pièce de théâtre. Pendant les 4 premiers actes, c'est juste des personnages qu'appelle un gars qui vient jamais. Acte 1, Emmanuel, le gars il vient pas. Acte 2, il continue, allez, Emmanuel. Acte 3, Emmanuel, y'en a marre maintenant. Il commence à tout péter sur le décor et tout. Acte 4, ils sont comme des dingues, oh Emmanuel. Et là, à la fin de l'acte 4, le mec arrive, oui je suis là. Et vous savez, je comprends très bien vos problèmes. Et toi, ah oui d'accord, mais c'est long quand même. C'est quand même assez long, hein, pour le temps d'intervention, hein. Hein, on se dit heureusement qu'il travaille pas aux urgences. Macron, il ferait passer une verrue plantaire avant un infarctus. Voilà, parce que c'est vrai que moi, en plus, dans ma famille, c'est le travail de mon père qui payait les mini-nuts. Mais quand tu regardes dans le cas de Macron, c'est lui qui gère tout le stock national de mini-nuts. Le paquet de mini-nuts, normalement, il est à tout le monde. Là, c'est lui qui choisit combien il en donne à chacun. Et franchement, au niveau répartition, il n'est pas très bon. T'as les trois quarts de la France qui est en hypoglycémie. Lui donne les mini-nuts à tous les diabétiques. Voilà. Qui en plus ont déjà des armoires cachées à l'étranger, remplies de Bounty, remplies de Twix et de sneakers. Voilà. Quatre actes pour finalement donner 100 balles, même pas un Mars, même pas un mini-nuts avec. Alors en plus 100 euros, pardon, mais on se demande d'où sort le montant, comment il a eu l'idée d'un montant aussi rond que 100 euros. En réunion, ils ont dû forcément hésiter entre on fait 50 ou 100 balles. Franchement, 50 ou 100 balles. Je pense que Macron, quand il donne 100 balles à des gilets jaunes, il a un peu l'impression de donner des étrennes à des éboueurs, c'est sûr, forcément. Mais bon, voilà, je me moque, mais quand même, c'était une belle allocution, je dois dire, ouais. Emmanuel Macron, très bien articulé, vraiment. La mienne aussi, hein, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais la sienne, quand même, aussi bien niveau consonne que voyelle, voilà, tout était bien articulé. Toutes les liaisons étaient bien faites. Voilà, tout ça, mesdames et messieurs, grâce à 100 euros. Voilà. Alors, à un moment, c'est vrai qu'il a même dressé la liste de tous les problèmes des Français, toutes les raisons pour lesquelles les Français vont mal. Je l'ai trouvé vraiment très bon pendant ce passage. J'ai même cru qu'il allait sortir un gilet jaune de sous sa table. Il ne l'a pas fait quand même. En tout cas, il a bien compris leurs problèmes. Le seul truc qui reste à faire maintenant, c'est de les résoudre. Hein, voilà, puisque bon, vu que maintenant tout le monde s'est énervé, maintenant il faut bien qu'il s'y mette. Voilà, franchement, il était temps. Merci à tous.
Merci, que ça fait du bien. Thomas VDB. Et vous pouvez le revoir sur franceinter.fr ou sur notre page Facebook par Jupiter.
Is have a break. Cousin de couteau qui me belly fait. Cousin de ma maman qui manga. Cousin papa, cousine, cousin.
Sur France Inter, par Jupiter, où l'économiste Julia Cagé est en notre compagnie. Elle publie Le prix de la démocratie aux éditions Fayard. Vous êtes aussi professeur d'économie à Sciences Po. Et à côté de vous, Guillaume Meurice, bien sûr, comique d'investigation.
Bien sûr, parce qu'on parle des comptes de campagne de Macron, on va parler après de l'exit tax. Donc je vais vous parler finance aujourd'hui. On est tous fans ici de finance. Charline a un album Panini avec tous les derniers présidents de la Cour des comptes. Juliette, quant à elle, collectionne les agios. Hein, vous êtes passionnée de découvertes bancaires. On le rappelle, mais la finance est ostracisée, discriminée, je dirais même. Je vous rappelle les chiffres qui sont effrayants, hein, qui sont ceux d'une enquête de l'association Trader, un ami pour la vie. Plus de 94% des gens préfèrent dîner nu devant Nordal Lelandais plutôt que de tourner le dos à un banquier. On en est là dans ce pays aujourd'hui, il faut que ça cesse. Comme a dit Macron, la finance n'est pas le problème, elle est la solution. Alors moi, je suis allé voir la solution, hein, c'est la fintech, on appelle ça en France. Ils se réunissaient ce matin à la Bourse de Paris. Donc Jean-Yves Courcial, si tu nous écoutes, c'est pour toi bébé. Et on commence tout de suite avec un vrai passionné.
Je suis passionné par la fintech en général, hein, tout ce qui est haut de bilan, bas de bilan, parce que je suis.
Vous êtes passionné par ça.
En transition. Passionné de fintech, ça a toujours été un de mes domaines. Hein. Je suis business angel.
Ah, vous êtes business angel.
Depuis l'âge de 22 ans.
Ah, quand je vous dis que c'est un milieu de passionné, c'est des passionnés. Hein. Quand t'es business angel à 22 ans, c'est vraiment que t'es à fond. Alors business angel, voilà, je précise parce que ça ressemble un peu au pseudo Tinder d'Alex Vizorek. ça pourrait. C'est pas du tout ça. C'est en fait un investisseur. Voilà.
Ah, mais avouez que
ange du business, ça a quand même un peu plus de gueule. On dirait un catcher. C'est vrai que c'est un métier qui fait rêver. D'ailleurs, j'avais une question.
Est-ce que quand vous étiez petit, vous vous disiez plus tard, je veux être business angel?
Non, je pensais soit être commercial ou trader.
Ah ouais, même petit? Est-ce que vous aviez des Playmobil avec des échanges d'argent, avec des Lego, etc.?
Oui, je joue au Monopoly.
Ah ben voilà, ouais, c'est logique. Hein. D'ailleurs, les examens de fin d'études des écoles de commerce, ça devrait être directement un grand Monopoly. En médecine, pareil, un docteur Maboul. Enfin, un docteur de la joue, hein, qui a la version chirurgie esthétique. Allez, on continue avec ce monsieur, parce que la finance, c'est quoi avant tout? Je vais vous dire, la finance, avant tout, c'est de l'humain.
L'humain, il est déterminant, puisque la fintech, la finance est faite par des humains. Et tous les humains ont une valeur. Quelquefois, une personne peut avoir une valeur dans l'entreprise parce qu'il contribue à un bon état d'esprit, installer une dynamique. Pourtant, en termes de compétences précises, techniques, il ne l'a peut-être pas.
Ça, c'est un peu moi dans l'équipe, ça. Je n'ai pas la compétence, mais j'ai installé une bonne humeur.
Mais ça, c'est très important.
Évidemment que c'est important. De toute façon, ça marche beaucoup comme ça à France Inter. Dominique Seul, le matin, c'est pareil. Robert qui pige rien à l'économie. Mais il met une dynamique, le gars. Il est autour de la table, c'est dynamique. On s'en fout des compétences. Sinon, on n'aurait pas les députés de La République En Marche comme ça. C'est les gens qui sont dynamiques, La République En Marche. Ils retournent leur veste, ils baissent leur froc. Enfin, ils bougent, quoi. Ils bougent. Allez, on continue avec la finance, car il y avait des prix qui étaient remis, en fait. Notamment à cette jeune start-up qui fait quoi?
Donc en fait, on apporte de l'information immobilière pour minimiser le risque de crédit. Donc justement, pour faire en sorte que le risque qui est pris par les banques soit plus faible.
Et donc pour que les gens qui aient le moins d'argent payent le plus de...
Que les gens aient le moins d'argent puissent avoir des crédits, puisque ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui.
Ah, vous êtes plutôt au service des banques qu'au service des gens?
On est au service des banques et au service des gens. C'est dur hein, comme interview.
J'avoue, je suis un petit peu relou. Et pourtant, j'adore la finance. Mais je me disais quand même, minimiser le risque de crédit, ça pue un peu du cul. Hein, je sentais que c'est comme quand il y a marqué manger, bouger sur un produit, c'est jamais bon signe. Ça sent le triple pontage coronarien quelque part. Je me méfie un petit peu. Alors, j'ai continué l'interview, même si bon, il n'était pas très tranquille.
C'est vraiment dur.
Vous mentez pas mal, je trouve.
Si je mens pas mal, c'est un compliment. Je suis très, très content.
Dans votre métier, c'est important de mentir.
C'est pas important de mentir, il faut être capable de raconter une histoire.
Ah, voilà la finance qu'on aime, celle qui raconte des histoires. Oui, oui, et le retour sur investissement. Hein, Fantomette au pays des cicaves. Moi, j'adore ça. Hein, j'adore les histoires. Et la belle histoire, c'est que cette start-up, elle avait gagné un prix qui était remis par un jury présidé par ma banque préférée, HSBC. Alors HSBC, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, si le diable avait créé une banque, il aurait créé HSBC directement. Il y aurait Dark Vador au guichet, vous voyez un petit peu l'ambiance. Je vous conseille d'ailleurs de taper HSBC plus scandale sur un moteur de recherche. Le cartel de Medellin à côté, c'est Disneyland Paris, je vous le dis. Mais comme ils sont sympas, ben ils ont quand même accepté de me répondre et de répondre à la question que je me pose depuis très longtemps.
Pourquoi HSBC a une si mauvaise réputation ?
Non, c'est pas ça.
C'est vrai, partout de par le monde, on dit HSBC, c'est la pire des banques.
Elle est passionnante, honnêtement, dans le monde entier, en fait, vous l'avez vu. Et c'est une passion sur ce jury. Moi, je parle de jury qu'on a...
Ça, je suis bien d'accord, mais c'est pas ma question.
Oui, mais c'est ma réponse. C'est ça, votre préoccupation, et c'est ça ma réponse.
Non, ma préoccupation, c'était plutôt l'exil fiscal.
Non.
Si, c'était plus
Non, c'est pas ça, le sujet.
Ah, ben merde, non, mais peut-être c'est moi, je me suis peut-être planté de sujet. C'est possible, j'ai pas les compétences, de toute façon, je vous ai dit. Mais il m'a bien expliqué que ce qu'ils veulent quand même, avant tout HSBC, c'est le bien-être de tous et promouvoir des jeunes businessmen.
Parce qu'en fait, la frustration, ça a été de ne pas pouvoir les faire tous gagnants. Alors, c'est un peu tarte à la crème. Vous avez des candidats qui sont absolument super, donc on va revoir. Donc,
c'est beau ça. Ça c'est beau.
Bah oui, c'est beau.
Là, vous êtes quasiment une ZAD, on a l'impression là maintenant.
Non, pas du tout. BP, une zone banking prioritaire.
Oh, c'est beau, une zone banking prioritaire. Quand je vous disais que c'était un milieu de poésie, quoi. Mais bon, moi, j'aurais plutôt dit zone gangrénée par l'égoïsme et la gabegie, autrement dit, sgeg. Hein, tellement, ils nous la mettent profond.
Guillaume Meurice, merci. Pour ce reportage, vous avez emmené notre stagiaire Paul Plumet. Oui. Il a kiffé.
Ah, il était content.
Julia Cagé, c'est un monde merveilleux, c'est rigolo quand même.
Ah oui, moi. Moi, j'adore parce que comme ça, quand j'enseigne l'économie, au moins tout est un domaine de l'économie que je peux détruire en cours. Je regarde mes étudiants avec les yeux grands ouverts, je dis mais quand même, on est à Sciences Po. Je fais bah oui, mais bon, quand même à Sciences Po, ça fait du bien d'avoir des économistes qui sont un peu à gauche.
Julia Cagé avec nous, qui publie chez Fayard le prix de la démocratie. Et lundi soir, pendant que le président propose d'augmenter le SMIC pour rendre sa politique un petit peu plus sociale, au Sénat, les élus, mais quelques dizaines de minutes avant, viennent de voter la réduction des taxes pour les Français exilés. C'est l'exit tax sur les actions qu'ils détiennent donc à l'étranger. Cet impôt est allégé. Allégé comme le yaourt. Des discours politiques quand il s'agit de mettre au pot.
Oui, il y a un jeu de mots.
Ouais, c'est bon.
T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe. Sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean.
Majoration relevée, vignette et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto. Droit d'immatriculation, PV, crash. Essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages.
Ce tube.
C'est l'hymne des gilets jaunes.
Ce tube des inconnus qu'on adore réécouter en fait.
On a envie de le réécouter en entier.
Ah bah c'est ce que j'ai fait ce matin, je vous dirais. Exactement. Alors, Julia Cagessi, le Sénat, c'est-à-dire, ils savent que Emmanuel Macron va faire une allocution où il doit prendre ce qu'il appelle, lui, un virage social. Bon, petit virage.
Il a peut-être fait un demi-tour social, puis après, il a refait un demi-tour. Et comme c'est limité à 80, il avance pas vite. Quoi.
C'est ça, on a l'image. Et là, juste avant, le Sénat entérine cet allègement de ce qu'on appelle l'exit tax. Est-ce que si le Sénat était plus panaché dans les catégories sociales ou géographiques, est-ce que ce serait arrivé ? Est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un... Enfin, il ne se serait pas dit, mais les gars, stop, t'en mords.
On peut pas faire ça.
Mauvais timing.
Ouais, ouais. Non, mais c'est ça qui est vraiment horrible d'une certaine manière dans ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire non seulement le Sénat mais l'Assemblée nationale aujourd'hui en France sont plus du tout à l'image de la population française. Alors c'est pas nouveau, mais ça a jamais été à tel point. Aujourd'hui à l'Assemblée nationale en France, il y a exactement 0 député ouvrier. En fait, officiellement sur le site de l'Assemblée nationale, il y en a un. C'est Jean Lassalle. Moi, personnellement, je le considère plutôt comme un professionnel de la politique. Et il y a moins de 3% de députés employés. Et ça a un effet très fort sur les mesures qu'ils prennent et qu'ils mettent en œuvre. Et notamment, ils considèrent à nouveau qu'une des priorités aujourd'hui en France, c'est de supprimer l'exit tax. Il faut quand même savoir que cette exit tax, en France, elle avait été introduite par Nicolas Sarkozy, qui n'est pas non plus le premier des gauchistes. Et apparemment, Nicolas Sarkozy était vendredi avec Emmanuel Macron, puisqu'il lui aurait écrit en partie, d'après Le Monde, le discours de lundi. Donc moi, je suis pas sûre qu'il lui ait dit en même temps de défiscalise les heures supplémentaires. Supprime la taxe que j'ai introduite en 2011. Cette taxe, quand même, elle visait à limiter l'évasion fiscale, c'est-à-dire à limiter les départs à l'étranger des plus riches, parce que c'est une manière de taxer davantage les gens qui vont s'exiler. Et même ça, finalement, on y met fin aujourd'hui, et c'est relativement tragique, c'est tragicomique. Je sais pas, tout à l'heure, moi, je pensais à En attendant Macron, c'est du Beckett, quoi, ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui.
Les plusieurs actes des Gilets jaunes, dans la chronique de Thomas VDB tout à l'heure. Et vous proposez une solution, l'Assemblée mixte, est-ce que vous pouvez nous résumer?
Oui, alors, du coup, moi, ce que je propose dans le livre, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, peut être comparé à ce qu'on a fait avec la parité entre les hommes et les femmes. On s'est dit en France que si on faisait rien pour imposer une dose de parité entre les hommes et les femmes à l'Assemblée nationale, on n'aurait jamais suffisamment de députés femmes à l'Assemblée nationale. Bon, on l'a fait un peu à l'Assemblée, on l'a fait pour les régionales avec des listes qui sont des listes Shabada. Un candidat homme, un candidat femme, etc. Et je dis, il faut faire pareil en termes de parité sociale. C'est-à-dire qu'il faut obliger aujourd'hui les partis politiques à présenter des listes qui soient mixtes socialement. Donc l'Assemblée mixte, c'est quoi ?
Comment on
fait ? Très simplement, je dis, pour aujourd'hui, sur l'Assemblée nationale française, pour 2/3 des sièges, on conserve les modalités de l'élection actuelle. Mmh. Et pour 1/3, on fait une élection à la proportionnelle, au niveau national, avec des listes qui sont mixtes socialement. C'est-à-dire au moins une moitié d'ouvriers et d'employés sur les listes. Pour garantir une certaine dose de représentativité à l'Assemblée nationale. Ça me paraît vraiment une urgence. C'est-à-dire que si on n'utilise pas aujourd'hui les outils de l'état de droit pour redonner une représentativité aux catégories populaires, qu'est-ce qu'on va avoir ? Je veux dire, aujourd'hui, les gens sont inquiets, ils disent « Oui, mais les Gilets jaunes, ça va jamais finir, il va y avoir une révolution. » Mais parce qu'on a des gens aujourd'hui qui sentent que la seule solution pour se faire entendre, c'est de bordéliser. Mmh. C'est de bordéliser, c'est de mettre un gilet pour avoir de la visibilité. Ce poids-là, il faut leur donner à l'Assemblée nationale et ça rétablira aussi un lien de confiance entre les Français, les citoyens et leurs représentants politiques.
Et vous proposez donc des idées structurelles. Julia Cagé. Ouais. Julia Cagé avec nous et Juliette Arnaud par le livre aussi.
Oui.
Quel est votre choix ?
Alors aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle Trouble et qui est écrit par, attention, je me lance, Jeroen Olieslagers.
Très bien.
Oui, voilà. Donc il est belge, mais il est surtout flamand. Comment est-ce que je peux vous pitcher ce livre ? Si je veux faire vraiment à l'américaine, c'est l'histoire d'un flic qui écrit des poèmes. Ah ! Surprise, point d'intérêt. Un peu plus long, c'est l'histoire d'un flic de 20 ans à Anvers, dans l'autre Belgique, la ville des Diamants et de Bruegel, pendant l'occupation allemande, et qui, en douce, parce qu'il est dingue de Rimbaud, écrit des poèmes. Ah, au carré ! Histoire et culture ! Attention, ravivée. C'est, on pourrait dire aussi, l'histoire d'un jeune mec qui ne sait pas s'il écoute plus son vieux prof antisémite et collabo, Barbiche Teigneuse, ou son meilleur ami qui est résistant. Et le résultat, c'est que son recueil de poèmes, il l'intitule « Confession d'un comédien ». Ah, au cube ! Attention, maximale, le récit d'un homme dans le combat, dans le bien et le mal. Alors, à présent que vous êtes ferrés, mes petits brochets, sachez que c'est aussi l'histoire d'un vieux type qui n'est plus ni flic ni jeune, qui a survécu à la guerre, à la perte de ses prétentions littéraires, au suicide de sa petite fille punk, et qui raconte ce que c'est qu'une ville occupée à nous qui ne connaissons pas la guerre. Non, de blindés rurés au mur, c'est pas la guerre. Voilà ce qu'il dit le vieux Wilfried. Il dit, je le cite, « Comment expliquer ce qu'un homme est capable de faire quand ton interlocuteur n'a jamais ressenti ce que ça fait d'être soi-même un salaud potentiel ?» Et que s'indigner dans un fauteuil n'est rien d'autre que de l'hypocrisie qui s'ignore. Les gens disent parfois qu'il faut se mettre dans la peau de l'autre, mais ça aussi c'est de l'hypocrisie, parce que par la peau de l'autre, on entend souvent celle de la victime, pas un mot sur ceux qui se sentent incités à participer. Incité à participer, oui, je vous le cache pas, Wilfried, il a participé. Wilfried, c'est plus tonton Daniel qu'Omar Sharif. Le ressentiment, la désillusion, l'aigreur, c'est son dada à Wilfried. Wilfried, il pourrait pas jouer dans les petits mouchoirs, hein. C'est pas une belle personne. De là, question bien légitime, pourquoi lire ce roman où presque sur 500 pages, le narrateur sans phare donne à entendre cette voix aigre ? Parce qu'en évoquant cette période trouble, hein, le titre du roman, on ne peut que réfléchir aux perspectives sur notre temps, l'histoire bégaye, blablabla, sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est surtout parce que l'auteur, Jeroen Olli Slager, c'est aussi un dramaturge. C'est son métier de donner à entendre des voix. Alors le monsieur, il sait comment faire pour que celle de Will, elle s'impose au lecteur malgré le trouble engendré par les agissements ou par les non-agissements, c'est-à-dire les lâchetés du personnage. Will se cramponne à Rimbaud. Il a appris grâce à Barbiche Teigneuse à parler français. C'est pénible d'ailleurs, entre parenthèses, que les salauds soient parfois lettrés. Parenthèse fermée. Mais ce n'est pas le jeune et joli visage d'Arthur qui plane sur le livre, c'est le profil furieux de Margot la Folle. D'Ulle Grit. En langue d'origine. Qui sait celle-là encore? Eh ben, c'est le personnage principal d'une grande toile de Bruegel l'Ancien, qui est un peintre du XVIe siècle, qui est natif d'Anvers. Et dans ce grand tableau, il y a une femme au milieu, casquée, cuirassée, et au milieu de cette grande toile apocalyptique et incendiée, qui est peuplée de monstres. D'Ulle Grit, c'est aussi une personnalité du folklore flamand, qui personnifie l'avarice et sa puissance. On dit d'elle, elle pouvait aller piller l'enfer et en revenir saine et sauve. Moi, je connaissais pas ce tableau, qui vient de revenir au public d'Anvers après 18 mois de restauration, et grâce à Internet, j'ai pu un peu absorber du choc de cette œuvre. J'exagère, franchement, allez la voir, même sur Internet, on s'en recose. Et comprendre pourquoi l'auteur du roman, il revient sans cesse à Margot la Folle. Bien sûr, Will a survécu à la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il est là pour nous raconter, il est même pas devenu fou. Mais le seul être humain qu'il a vraiment chéri, la fille de son fils, la petite punk, elle s'est fissurée. Comment? Pourquoi? Lisez Trouble. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, c'est chez quel éditeur?
C'est La Cosmopolite chez Stock. Et je ne redirai pas le nom de cet auteur.
Merci, Juliette. On peut le retrouver sur le site de l'émission, bien sûr. Avec Julia Cagé, on aborde ce dernier sujet, car c'est la fin des grandes transhumances dans les médias. Beaucoup ont déménagé ces derniers mois pour se regrouper dans l'immeuble de leur patron. Par exemple, le patron de SFR pour Libé et BFM, chez Bayard pour RTL qui se rapproche de M6, Lagardère où cohabite le JDD, Europe 1, RFM. Ils ont quitté leur bureau historique du centre de Paris. Et qui s'installe à leur place là-bas? Facebook ou Twitter, les géants du net, bien sûr. Alors, ils en pensent quoi, les journalistes à Libé, de leur nouvel endroit?
Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux? Les briques. C'est les briques rouges. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Déjà, ça me désole, hein.
C'est arrivé près de chez vous, le film de Rémi Bellevaux, Benoît Poulvord et André Bonzel. Alors c'est un sujet que vous abordez dans Le Prix de la démocratie, cette concentration des médias. Ça avait fait l'objet d'un précédent ouvrage, Sauver les médias, capitalisme, financement participatif et démocratie, qui était paru au Seuil. Alors mais quel prix donc ça représente pour nous, cette concentration?
Bah déjà pour commencer, j'ai pas intitulé mon nouveau livre Sauver la démocratie, parce que vu le succès du précédent, étant donné que la situation s'est complètement dégradée dans les médias français, je me suis dit que c'était mal barré sinon pour notre système actuel. Non, ça représente plus sérieusement un prix extrêmement important. À la limite, les locaux, c'est symbolique. Même si quand même derrière le fait de déménager, il y a la volonté de faire des plus-values immobilières. Donc ça quand même, ça témoigne d'une crise grave.
Et là, la concentration
dans le domaine des médias,
elle est visuelle, ça y est.
Non, mais non seulement elle est visuelle, mais si vous prenez le cas d'un journal comme Libération, il y a aussi eu des coupes, et alors à l'Express, c'est encore pire, extrêmement fortes dans la taille des rédactions. Et ça, derrière, vous aviez des journalistes qui faisaient du super boulot et qui sont plus là pour faire ce super boulot-là. Et du coup, ça a un coup pour notre démocratie, parce que ça veut dire que comme citoyen, on est moins bien informé. Et je trouve quand même c'est important d'aborder ce sujet maintenant, là, en pleine crise des Gilets jaunes, où malheureusement, souvent, les journalistes sont pris comme cible parce qu'ils traiteraient mal de l'actualité, parce qu'ils seraient biaisés, parce qu'ils seraient favorisés. En fait, aujourd'hui, quand même, dans l'ensemble, la profession de journaliste est une profession qui souffre beaucoup. On a des journalistes qui sont précarisés, on a des journalistes qui perdent leur job, on a des journalistes qui sont de plus en plus dans des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles. Et moi, je pense qu'il faut quand même essayer de rétablir un lien de confiance entre les citoyens et les journalistes. Il faut quand même que les citoyens aient conscience de ça. On va pas pleurer pour les journalistes, mais c'est quand même une profession qui se porte pas bien et qu'il faudrait soutenir collectivement, parce que quand les médias vont mal, c'est la démocratie tout entière qui va pas très bien.
Et là aussi, vous avez une solution.
Et là aussi,
parce que
j'ai
bon,
une solution.
Critiquer, c'est bien, mais il faut avoir des idées et vous en proposez une.
Ouais, c'est ce que j'avais appelé la société de médias à but non lucratif. C'est quoi la société de médias à but non lucratif? Bah, c'est l'idée de faire de l'information de qualité sans vouloir en faire de l'argent. Alors, c'est pas exactement France Inter, mais ça correspondrait assez bien au service public, puisque l'idée, c'est de voir l'information comme un bien public, donc pas comme une marchandise qu'on veut vendre derrière. Donc, Donc c'est permettre en fait aux médias qui le souhaitent de prendre le statut de fondation. Il y a un certain nombre de médias qui se battent pour ça depuis plusieurs années, par exemple Mediapart. Et en fait aujourd'hui en France, c'est extrêmement difficile pour un média de devenir une fondation. Moi je pense qu'il faut ouvrir ce statut. Et il faut non seulement permettre aux médias de prendre le statut de fondation, mais il faut plus de démocratie aussi à l'intérieur des médias. Et aujourd'hui on a des milliardaires qui financent, qui décident. Non, il faut aussi donner des voix aux lecteurs, il faut donner des voix aux citoyens et donc avoir des conseils d'administration beaucoup plus participatifs. Et là, si je peux faire un moment pub, il y a un nouveau média qui s'appelle Disclose, qui vient de se lancer et qui fait ça en fait, qui va proposer du journalisme d'investigation, pas pour le vendre, puisqu'ils vont faire des enquêtes pour les donner à d'autres médias. Et ça, ça peut être financé par quoi? Par de l'argent public, par des dons. Et si on regarde leur structure de décision, vous avez des journalistes, vous avez des experts, mais certainement pas ceux qui font des dons.
Disclose, ça s'appelle. Très bien, on va suivre tout ça, Julia Cagé. On va vous proposer, un rôle. Eh bien, c'est peut-être votre premier évidemment. Rôle de comédie.
Attention, hein, le peut-être pas le dernier. Hein. Vous avez peut-être entendu que la semaine dernière, Benoît Hamon avait oublié d'adhérer à son propre mouvement, Génération.S. Et il a dit, il n'avait pas trop eu le temps, il n'a pas fait gaffe.
Et vous avez travaillé avec lui.
Eh bien, vous avez travaillé un petit peu avec lui. Donc on s'est dit, nouvelle équipe de campagne pour les européennes. Charline et vous le reprenez en main. Parce qu'il est un peu distrait, Guillaume Meurice fait Benoît Hamon. On se lance dans les préparatifs.
Bon, Benoît, sérieux, vous êtes prêt pour les européennes?
Oui, cette fois je suis prêt, là, objectif 7%.
Oh, waouh, super. Ouais.
Et votre programme?
Mon quoi?
Programme. Oh non, c'est pas vrai.
La boulette. J'ai pas encore vraiment eu le temps de le faire.
Mais c'est pas possible, vous pouvez pas vous lancer sans programme.
Bon, au pire, vous reprenez les idées de 2017, non? Vous avez pas une idée qui pourrait être utilisée?
Si, je peux reprendre le revenu universel.
Mais oui, ça c'était une idée brillante,
ah,
c'était
la mienne. voilà, alors comment vous vouliez financer ce revenu universel?
Eh ben, c'est avec l'ISF.
Ah ouais, mais Macron, il a supprimé l'ISF.
Ah bon? Ah bah ouais, mais si vous me dites rien aussi...
Et sinon, Benoît, au niveau des candidats, vous pensez à qui?
Ah ça, c'est réglé. C'est carré. Moi, je suis candidat pour les européennes.
Hein. Ouais, vous serez tête de liste, mais il faut d'autres candidats avec vous. Est-ce que vous avez une liste?
Oh non.
Vous n'allez pas me dire que vous êtes tout seul?
Bah, d'habitude, oui, je suis tout seul, alors j'ai pas bien réfléchi aux autres. Quoi.
Mais vous avez bien des gens qui vous soutiennent, Benoît.
Bah, au PS...
Enfin, de toute façon, il n'y en a plus de PS, alors...
Bah, ça, je le savais. Ça,
ah,
ça,
ouais,
ça,
ouais, ouais, ouais.
Et du coup, dans votre mouvement, vous avez quelques adhérents?
Bah, il y a moi, j'ai même adhéré la semaine dernière. Donc,
est-ce qu'il y en a d'autres?
Ah, alors ça, on m'a pas dit, hein.
Bon,
je sais pas.
Non, ok, bah, alors sinon, niveau slogan, alors...
Ah, parce qu'il faut... Non, je déconne, alors là, vous allez être fiers de moi.
Ah, ouais, ah ça, on verra.
Alors,
on verra.
Attention, le slogan, ensemble, tout devient possible.
Oh non, ça vous pouvez pas.
Mais pourquoi?
Mais enfin, c'était le slogan de Nicolas Sarkozy.
Ah ben ouais, mais si personne me dit rien.
Ah. Oui.
Oui, bonjour, je suis le taxi garé en bas.
Ah oui, et donc
Et j'ai déposé Monsieur Hamon, il m'a dit qu'il revenait dans 3 minutes, mais là ça fait plus de 2 ans.
Oh merde, oh la boulette.
Ouais, ok, c'est bon, allez-y alors.
Ouais. Prenez soin de vous, hein, c'est important, un dirigeant qui sait où il va.
Ah bah ça je le sais, je vais chez moi là.
Oui, très bien, mais bon.
Mais Benoît!
Oui!
Il faut donner l'adresse au monsieur.
Ah bah c'est par là quoi.
Non mais tellement il est pas possible. Moi je sais pas comment ça va être quand il va diriger la France quoi.
La quoi?
Julia Cagé, donc objectif 7% pour les européennes ou pour Benoît Hamon? Ça y va bien?
On a des nouvelles. Objectif, c'est de pas avoir 7 partis pour les européennes. Si on pouvait en avoir qu'un seul à gauche, on pourrait peut-être atteindre les 20% et ça serait quand même
et bien fédéré. Ah oui, bien sûr. Julia Cagé était avec nous, professeure d'économie à Sciences Po et qui publie Le Prix de la démocratie. C'est paru aux éditions Fayard. Alors, on a beaucoup parlé de la France, mais vous balayez 9 autres pays. Hein, c'est sur 10 pays et 50 ans de financement des partis politiques. C'est un ouvrage passionnant, brillant, qui propose des solutions aussi et qui est tout à fait accessible. Hein, vous allez voir, c'est un pavé. Il y a quelques graphiques, mais je vous promets que...
Il y a
des blagues. Il y a des blagues. Non, c'est vraiment tout à fait accessible à tout un chacun pour être armé en bon citoyen. Merci beaucoup, merci Juliette Arnaud, Thomas VDB, merci Alex et Guillaume.